Chers frères et sœurs, quand on a un diagnostic sévère à faire connaître à un patient comment s'y prendre, quand on a un appel grave à la conversion, comment s'y prendre sans décourager le malade, sans décourager le frère ou la sœur qu'on aimerait interpeller. J'ai été frappé dans les passages de la parole de Dieu que nous venons d'entendre ce dimanche, par la manière dont l'apôtre Pierre prend la parole après la Pentecôte. Ce qu'il a à dire est grave. Il tient à faire comprendre au peuple, et en particulier aux dirigeants, qu'ils ont tué Jésus, qu'ils l'ont livré, qu'ils l'ont torturé. Il le dira, mais ça n'est pas comme ça qu'il commence. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous aviez livré. Autrement dit, c'est à partir de la résurrection de Jésus qu'il revient parler au peuple. C'est à partir de cette lumière que le Père projette sur la croix de Jésus. C'est à partir de ce Jésus auréolé de lumière que Pierre parle. Et c'est ce qui fait que toute sa prédication prend alors un air d'espérance, parce que ça veut dire que la violence des hommes n'a pas eu le dernier mot et n'aura pas le dernier mot. Partant de là, il peut quand même par la suite leur dire « vous l'avez livré ». Mais commencer par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, ça n'est pas innocent. Ça veut dire que Pierre repart au premier moment de l'histoire du salut, juste après avec la vocation d'Abraham, jusqu'après ces 11 chapitres de la Genèse où Dieu donne le monde à l'être humain et où le serpent a un autre programme. Et vous connaissez la suite, méfiance vis-à-vis de Dieu, division entre l'homme et la femme, Caïn qui tue Abel, et puis finalement le déluge et le grand blabla de Babel. Faisons-nous un nom. Et voilà que cette histoire de trahison, de méfiance, de malédiction devient une histoire de bénédiction par l'appel d'Abraham. « En toi se béniront toutes les nations, je ferai grand ton nom. » Donc, Pierre repart du début de ce dessein de Dieu révélé au monde, une histoire de bénédiction qui doit rejoindre toutes les nations. Et finalement, même si péché il y a, oubli il y a, trahison il y a, la bénédiction du Seigneur trouvera son chemin. La suite alors, c'est le diagnostic, il est sévère, c'est vrai. Vous l'aviez livré, vous l'avez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste et demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie. Mais il ajoute, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Probablement pas tous au même niveau, mais vous ne vous êtes pas rendu compte de ce que ça veut dire que mettre à mort celui qui vient au nom de Dieu, inscrire la vie et la bénédiction au cœur de l'aventure humaine. Alors, conséquence, convertissez-vous, que nous interprétons tout de suite au plan moral, mais que Pierre commente, tournez-vous vers Dieu. La conversion, c'est cela. On allait dans un sens, il s'agit de reprendre la bonne direction. On avait choisi la mort, il faut se retourner vers la vie. On avait choisi la malédiction, il faut reprendre le chemin de la bénédiction. Tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. parce que si Dieu a ressuscité Jésus, il l'a fait intercesseur pour nous, et ça, c'est une immense source d'espérance, quel que soit le péché des hommes. Encore faut-il qu'on se tourne vers lui et qu'on reprenne cette direction qui est une direction de vie et de bénédiction. Dans la deuxième lecture de la première lettre de Saint Jean, c'est plutôt un appel que l'apôtre adresse à nous, à la communauté, mes petits-enfants. Je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si quelqu'un de vous vient à pécher, sachez que nous avons un défenseur auprès du Père. Là, de nouveau, on pourrait dire « vous n'êtes que des pécheurs » et on pourrait accuser, alors que l'apôtre présente le Christ comme l'avocat de la communauté, l'avocat des frères. J'aime à souligner que dans l'Apocalypse, le grand accusateur céleste, qui est le démon, est jeté dehors du ciel. Il n'a pas sa place auprès de Dieu. En revanche, c'est l'intercesseur et l'avocat qui est près de Dieu pour nous. Enfin, l'Évangile. Vous pourriez me dire, mais là c'est très différent, puisque le Christ vient, la paix soit avec vous. Où est la gravité? Mais la gravité, elle est dans la situation. Cette communauté n'a quand même pas été très vaillante. Judas, Pierre, la fuite des disciples. Et voilà que Jésus est au milieu d'eux et leur montre ses plaies. Ça pourrait être une scène de vengeance. Voilà ce que vous m'avez fait et vous allez voir. L'actualité nous montre que la loi du talion est souvent largement dépassée. Ce que vous m'avez fait, vous le subirez 10 fois et 100 fois. Or, le Christ, au milieu de sa communauté, montrant ses plaies, leur dit « la paix soit avec vous ». C'est le fruit de la résurrection, cet amour, non pas que ce que vous avez fait n'est rien, vous avez mis à mort celui que Dieu vous avait envoyé pour vous bénir. Non pas que ce soit rien, mais l'amour de Jésus, couronné par la résurrection et donnant l'Esprit Saint qui est ce souffle de vie et de victoire sur le mal, c'est cela que Jésus vient faire, illustrer, montrer, actualiser en rencontrant sa communauté. La paix soit avec vous. C'est le souhait de l'évêque quand il ouvre une célébration. Peut-être parce qu'il reprend la salutation du Christ pour une église quand même pas très vaillante, et c'est cela que l'évêque reprend encore. La paix soit avec vous pour des communautés pas toujours vaillantes. Et pourquoi ensuite cette insistance de Saint Luc, on ne trouve ça que dans son évangile, « Voyez mes mains, voyez mes pieds, pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur, c'est bien moi, touchez, regardez, un esprit n'a pas de chair et d'os. » Parce que Luc écrit pour des chrétiens marqués par la culture grecque, et pour eux, la survie de l'âme ou de l'esprit ne posait aucun problème. La résurrection de Jésus, ça n'est pas son message qui se poursuit. Ça n'est pas probablement il est vivant. Et ce n'est pas non plus la vie d'un esprit. C'est Jésus corps et âme, maintenant dans la lumière de la résurrection, mais bien celui qu'ils ont connu, celui qu'ils ont aimé, celui qu'ils ont parfois trahi, et celui que Dieu a couronné de lumière. C'est donc une question de réalisme. Comme il y a le réalisme du péché qui pourrait être désespérance, il y a le réalisme de la victoire de Jésus qui ouvre le chemin de l'espérance. Encore faut-il qu'il y ait ce réalisme, et c'est pourquoi Jésus insiste tellement auprès de la communauté. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Alors en conclusion, frères et sœurs, c'est trop beau pour être vrai. Ils n'osaient pas vraiment y croire. Non, c'est trop vrai pour rester dans le vague. Et par conséquent, le Christ nous invite à un grand réalisme ce matin sur ce qui blesse nos vies, parce qu'il arrive que nous soyons des pécheurs. Si le mot vous gêne, mettez des tordus. Il y a quand même des tordus dans le monde. Bon. Eh bien, c'est à cette communauté-là de pécheurs, c'est-à-dire nous, que le Christ s'adresse et qu'il nous dit « La paix soit avec vous ». Je terminerai par évoquer quelques lignes d'un entretien de Sainte Catherine de Sienne, notre sœur, avec le Christ. Et le Christ lui dit « Ne regarde jamais ton péché en dehors de ma miséricorde ». Le désespoir de Judas m'a fait beaucoup plus mal que la trahison de Pierre, parce qu'il a jugé son péché plus grave et plus grand que ma miséricorde. Oui, Dieu désire donner la vie et pardonner, il l'a montré en Jésus, encore faut-il que nous nous tournions vers lui de manière résolue. Nous avons un avocat et un intercesseur auprès du Père. Le Christ nous rejoint comme en ce moment et nous dit « La paix soit avec vous » en nous montrant ses plaies, ce qui est le gage du réalisme de ce qu'il a vécu, de la violence des hommes, mais aussi de la victoire du pardon. Que cela nourrisse notre espérance. Amen.